Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Tiara Ndiaye.
Bonjour à toutes et à tous, joyeux Noël, excellente fête de fin d'année. Alors aujourd'hui on va parler de la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang particulièrement fréquente dans les populations d'Afrique subsaharienne, aux Antilles, dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient. Cette pathologie est due à une malformation génétique qui fragilise les globules. Normalement, ils sont ronds pour mieux circuler dans le sang. Dans cette maladie, ils prennent une forme de croissant, d'où le nom drépanocytose qui vient du grec drépanon et qui signifie fossile, cet outil en forme de lune qui rappelle la silhouette d'un croissant. La drépanocytose peut donner une série de complications à cause de cette anomalie. Les globules rouges se détruisent. Cela aboutit à des crises douloureuses, une forte anémie et les patients ont de plus grandes chances de contracter de graves infections bactériennes. La drépanocytose touche autant les hommes que les femmes. Elle est la pathologie génétique la plus fréquente dans le monde avec une estimation de plus de 50 millions d'individus atteints chaque année en Afrique. Environ 200 000 enfants naissent avec la maladie sans prise en charge. La moitié d'entre eux n'attendront pas l'âge de 5 ans. Pour en parler avec nous en studio, docteur Hassania Kate, médecin référent pour la vaccination et la drépanocytose au sein du Bureau de la prévention et des dépistages de drépanocytose de Paris, drépanocytologue en pédiatrie générale à l'hôpital Trousseau. Et en deuxième partie de Priorité Santé, nous retrouverons au Mali docteur Abdoulaziz Diakité, pédiatre à l'hôpital Gabriel Touré à Bamako. Et dans un tout autre registre, en fin d'émission, focus sur le Gabon qui, après plusieurs années d'efforts, vient d'être certifié par les experts africains et l'Organisation mondiale de la santé, pays libre de la poliomyélite. Et n'hésitez pas à nous appeler, vous avez la parole, le numéro de Priorité Santé, 33 1 84 22 75 75. Docteur Hassania Kate, bonjour.
Bonjour.
On l'évoquait brièvement dans l'introduction, la drépanocytose est une maladie du sang, mais de quoi s'agit-il précisément ?
Donc il s'agit d'une maladie génétique qui touche plus précisément l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, c'est une protéine qui est contenue dans le globule rouge et qui permet de transporter l'oxygène dans les tissus. Donc quand on est atteint de drépanocytose, l'hémoglobine habituelle, qui est l'hémoglobine A, est remplacée, donc nous on dit qu'il y a eu une mutation sur le plan scientifique, est remplacée par de l'hémoglobine S, et du coup cette hémoglobine S va avoir des propriétés différentes qui vont être à l'origine de tous les symptômes de la maladie.
Et quels sont justement les signes de cette drépanocytose ?
Donc à la période pédiatrique, essentiellement, ça va se manifester par une anémie chronique, d'accord ? Donc c'est-à-dire que la quantité de globules rouges, le taux d'hémoglobine est plus bas que la moyenne. C'est des personnes qui vont être fatigables, qui vont être moins tolérantes à l'effort. Un autre point dans la maladie, et c'est le signe le plus identifié, ça va être les crises douloureuses, la survenue de crises douloureuses qui peuvent être provoquées par plusieurs facteurs, changement de température, déshydratation, manque d'oxygène, etc. Et également une sensibilité aux infections, à certaines catégories de microbes qu'on appelle les germes encapsulés. Et donc les personnes atteintes de drépanocytose, surtout les enfants, vont avoir un renforcement de leur calendrier vaccinal, mais également un traitement antibiotique qu'on va leur donner pendant plusieurs années pour permettre de lutter contre les infections graves, notamment contre le pneumocoque.
Et la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire, elle est transmise donc par les deux parents, elle n'est bien entendu pas contagieuse. Peut-être on peut détailler cette transmission.
Alors effectivement, la transmission génétique, c'est quelque chose d'assez abstrait, c'est pas évident. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un enfant soit malade, il faut qu'il ait hérité de chaque parent, donc c'est-à-dire papa et maman, les deux, lui aient transmis le gène malade, le gène S, le gène de l'hémoglobine qui a eu la mutation. C'est-à-dire que en général, dans ce cas-là, le père et la mère sont tous les deux porteurs sains. Donc ils ont un gène malade et un gène non malade. Ils ont un gène S et un gène A. Et pour un enfant qui est malade, chaque parent aura transmis son gène S. Donc l'enfant aura hérité de deux copies du gène S. Il va être SS et à ce moment-là, il va développer la maladie. Il va être drépanocytaire.
Il y a des drépanocytaires qui sont par exemple AS, SS également. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des parents atteints de la maladie et ne pas l'être. Et inversement, avoir des frères atteints, des frères et sœurs atteints dans une même famille et d'autres dans une même famille qui ne sont pas atteints de cette pathologie.
Alors en fait, c'est un peu plus compliqué. Les personnes malades, ce sont vraiment les SS ou SC ou S thalassémiques, d'accord ? Par contre, les porteurs sains, eux, ne sont pas malades. Ils n'ont pas les symptômes de la maladie. Donc les porteurs sains, ça va être les AS, comme je le disais dans l'exemple précédent. Et donc, les AS ne sont pas malades parce que c'est très schématique, hein, mais le A les protège. Les A va empêcher le S de s'exprimer. Donc quand on est porteur sain, on n'a pas les symptômes de la maladie drépanocytaire. Ça, c'est vraiment très important. Et donc les parents qui sont porteurs sains n'ont pas de symptômes. Et s'ils n'ont pas fait le dépistage, ils ne peuvent pas savoir qu'ils sont porteurs sains et qu'ils sont susceptibles de transmettre la maladie à leur enfant.
Et quels sont justement les examens incontournables à réaliser pour dépister la maladie ?
Alors, il faut faire une prise de sang, donc c'est ce qu'on appelle une étude de l'hémoglobine. Hein. Donc c'est un examen très simple qu'on fait dans n'importe quel laboratoire.
Qui est réalisé à la naissance ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, en France, on a la chance d'avoir un dépistage néonatal généralisé, d'accord ? Donc le dépistage néonatal, il comprend, on va dire, c'est un kit où il y a plusieurs maladies qui sont dépistées, comme la mucoviscidose, la phénylcétonurie, l'hyperplasie des surrénales, l'hypothyroïdie congénitale. Et donc, ces maladies-là sont proposées à l'ensemble des nouveau-nés. Ensuite, il y a le cas particulier de la drépanocytose qui est, en France en tout cas, est proposée sur des critères d'origine des parents. C'est-à-dire que si les parents sont originaires d'Afrique intertropicale, du pourtour méditerranéen, donc ça va être le Maghreb, mais ça va être aussi l'Europe du Sud, des Antilles, du bassin, enfin le bassin méditerranéen, je viens de le dire, mais par exemple de la péninsule indienne, à ce moment-là, ces enfants-là, on va rajouter une goutte de sang supplémentaire pour pouvoir faire le dépistage de la drépanocytose.
Parce qu'on dit justement que c'est souvent une maladie qui touche beaucoup les Noirs. Est-ce que, qu'en est-il réellement, finalement ?
Alors, finalement, on sait que ça ne touche pas que les Noirs, c'est-à-dire que il faut pas, ce ne sont pas uniquement les afro-descendants qui sont atteints, qui peuvent être atteints de drépanocytose. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le, il y a tout le pourtour méditerranéen qui est touché, et donc on peut avoir des patients originaires de l'Europe du Sud, par exemple de la Sicile, de l'Italie, d'Italie du Sud ou de la Grèce, et qui n'ont pas d'ascendant africain et qui vont être atteints de drépanocytose, des formes homozygotes SS ou parfois des formes aussi associées à la thalassémie, donc des S-bêta-thalassémie.
Mais quand on voit qu'il y a 200 000 cas de drépanocytaires détectés chaque année en Afrique, pourquoi la maladie elle affecte essentiellement en tout cas le continent africain ?
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre pour vraiment bien clarifier les choses, c'est que le gène de la drépanocytose, il est apparu essentiellement dans des zones d'endémie pour le paludisme. Et donc, dans ces zones-là, il y a l'Afrique intertropicale, bien entendu. Donc, vous avez quatre gènes qui sont apparus sur le continent africain, et il y a une mutation qui est apparue sur la péninsule arabo-indienne. Parce que sur l'Asie, il y a également des zones d'endémie de palu. Et donc, en fait, ça explique pourquoi, effectivement, une majorité des patients sont plutôt d'origine afro-caribéenne, mais on a aussi toute une partie des patients qui sont plutôt de descendance arabo-indienne.
Et on a principalement comme symptôme dans cette maladie la douleur, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a des facteurs qui déclenchent ces crises de douleur. Est-ce qu'on peut les citer ?
Alors, moi, ce que j'aime bien expliquer aux parents, quand je leur parle de la drépanocytose, je leur dis, l'hémoglobine S, c'est S comme stress. C'est S comme hémoglobine sensible. C'est une hémoglobine qui est très sensible. Donc, quand elle est dans des bonnes conditions, comme l'hémoglobine A, elle va faire son travail, elle va transporter l'oxygène. Par contre, dès qu'il va y avoir un changement de température important, c'est-à-dire qu'on passe du chaud au froid, une forte déshydratation, par exemple un enfant qui a de la fièvre et qu'on pense pas à hydrater correctement, qu'il va y avoir un manque d'oxygène, quelqu'un qui va aller à la montagne, aller en altitude, où il va y avoir une pression en oxygène qui va diminuer, à ce moment-là, l'hémoglobine S, comme elle est très sensible, eh ben, elle va se mettre à se polymériser, c'est-à-dire qu'en fait, les molécules de S vont s'accrocher les unes aux autres, et à ce moment-là, votre globule rouge, il va changer de forme. Au lieu lieu de rester bien arrondi comme un petit disque, comme un petit ballon et se faufiler dans les vaisseaux, il va prendre cette forme comme ça de petit croissant de lune et il va durcir. Et ce qui va faire que dans les tout petits vaisseaux, les plus fins, les capillaires, il va y avoir des bouchons qui vont se créer et votre globule rouge ne va pas pouvoir assurer sa fonction de transport d'oxygène, ce qui va être à l'origine de crises douloureuses.
Alors on va continuer de parler justement de toutes ces crises et tous ces symptômes qu'ont ces drépanocytaires avec un auditeur qu'on va prendre en ligne, ou plutôt une auditrice. On a Fatimata qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Fatimata, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous avez une question à nous poser, on vous écoute.
Oui, je voudrais surtout demander si l'hémoglobine F, moi je suis drépanocytaire homozygote, je suis FF, près d'une cinquantaine d'années maintenant. J'ai vécu toute ma vie sans crise drépano, donc je ne connais pas ce que c'est qu'une crise drépano. J'ai bien vécu toute ma vie, j'ai fait une bonne carrière, de bonnes études, mais j'ai une enfant qui est drépano en fait et qui est FF, elle, parce qu'elle a pris ça de son père et de moi-même. Et là, elle souffre beaucoup, elle est presque, elle a beaucoup d'handicap, quelquefois elle a beaucoup de douleurs qui l'empêchent d'aller à l'école. Et je voudrais savoir si, comme dans mon cas, j'ai beaucoup d'hémoglobine F, près de 30%, on pourrait la soigner avec, on pourrait soigner les malades, elle et d'autres aussi que je connais, beaucoup de familles africaines qui souffrent de la drépanocytose. Parce que je me dis que l'hémoglobine F peut jouer un rôle important, on me l'a déjà dit, dans les hôpitaux occidentaux. Et moi, j'en ai un taux de 30%. Et donc, la recherche devrait s'orienter de ce côté-là, parce que je suis sûre qu'elle va trouver des solutions, puisque moi, je n'ai pas de crise de drépanocytose.
Alors,
je n'ai pas tous les symptômes dont on parle.
Docteur Niakate, qu'est-ce qu'on peut répondre à Fatimata aujourd'hui?
Donc, bonjour Fatimata. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu 4 mutations qui sont apparues sur le territoire africain et une sur la péninsule arabo-indienne. En fait, en Afrique, il y a une mutation du S, qu'on appelle un haplotype. C'est l'haplotype Sénégal. Et l'haplotype Sénégal, il est souvent associé à une hémoglobine fœtale très élevée. Et le fait d'avoir une hémoglobine fœtale élevée, en fait, ça va quand même protéger, dans le cas de la maladie, les personnes qui ont une hémoglobine fœtale élevée font moins de crises douloureuses que les autres. Ça, c'est quelque chose qui est connu et identifié. Et donc, il existe un traitement, l'hydroxyurée, qui va effectivement jouer sur ça et qui va permettre pour les patients qui ont vraiment une forme très symptomatique de la maladie, quand on va les mettre sous hydroxycarbamide, sous hydroxyurée, eh ben ils vont se remettre à fabriquer de l'hémoglobine fœtale et ça va permettre d'atténuer les douleurs. Donc il y a des choses qui sont faites au niveau de la recherche hein, et on travaille beaucoup effectivement sur l'hémoglobine fœtale parce que ça va être un facteur protecteur par rapport à la survenue des crises douloureuses. Vous avez raison.
Est-ce que l'hydroxyurée, docteur Niakate, est disponible dans un pays comme le Sénégal ?
Tout à fait, hein, il est tout à fait disponible, l'hydroxyurée, dans beaucoup de pays d'Afrique maintenant, hein, ça devient quand même accessible comme molécule. Et d'ailleurs, il y a tout un travail qui est mené par à la fois par le réseau est-africain, le REDAC, et puis aussi maintenant par le réseau qui est en train de se mettre en Afrique de l'Ouest, pour réfléchir justement à des solutions pour rendre cette molécule la plus disponible possible dans les officines.
Et comment il agit ce médicament qui pourrait éventuellement soulager hein, les douleurs de la fille de Fatimata?
Alors l'hydroxyurée, alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que on va parler un peu plus clairement. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'hémoglobine A. Hémoglobine A, ça veut juste dire hémoglobine adulte. À la naissance, le bébé, il a beaucoup d'hémoglobine fœtale, l'hémoglobine du bébé, d'accord? Et cette hémoglobine-là, en fait, à partir de entre 3 et 6 mois, elle va commencer à disparaître. Si vous voulez, c'est comme si le gène, il va s'éteindre et à la place, il y a le gène de l'hémoglobine A qui va s'allumer. Quand il y a une drépanocytose, en fait, on ne sait pas fabriquer d'hémoglobine A. L'hémoglobine A, elle est remplacée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, quand l'hémoglobine fœtale, l'hémoglobine F va s'éteindre, elle va être remplacée par de l'hémoglobine S. Donc le fait de pouvoir donner de l'hydroxyurée à un patient, ça va faire que finalement, eh ben, on va rallumer le gène de l'hémoglobine fœtale.
Fatimata, est-ce que vous avez déjà consulté un médecin, notamment pour votre fille, pour soulager ses douleurs?
Oui, plusieurs fois. Je l'ai consulté dans les hôpitaux européens, donc parce qu'on habitait à Bruxelles. Donc à un moment, on lui donnait de l'Ibrea.
C'est ça, donc c'est l'hydroxyurée dont parle le docteur Niakate.
Mais quand on est revenu en Afrique, on n'a plus la possibilité d'avoir l'Ibrea. Donc là, on n'a pas accès à ça, ça ne se va pas ici.
Ah. Alors, en fait. Dans ces conditions, que faire, docteur?
Alors, moi, je sais que maintenant, à Dakar, je sais pas si vous êtes au courant, il y a, officiellement le centre de la drépanocytose qui a été inauguré en début d'année. Ça devait être au mois de février, à peu près. Donc, au centre Albert Royer, maintenant, il y a un centre de référence de la drépanocytose à Dakar même. Et d'ailleurs, c'est porté par le professeur Ibrahima Diagne. Et maintenant que toute l'équipe de Dakar est correctement formée, il y a maintenant une annexe qui est en train de se mettre en place à Saint-Louis également. Donc, il y a maintenant des possibilités de pouvoir se fournir l'hydroxyurée. Hein. Renseignez-vous localement auprès de l'équipe d'Albert Royer.
Fatimata.
Parce que ma fille est souvent hospitalisée là-bas, dans cet hôpital d'Albert Royer.
Ah, donc peut-être qu'en se renseignant, vous allez avoir des informations justement sur cette hydroxyurée qui pourrait soulager en tout cas les crises de votre fille. En tout cas, Fatimata, merci d'avoir appelé Priorité Santé et puis bon courage à vous surtout. On a une autre auditrice qui nous appelle de Bukavu en République démocratique du Congo. Gloria, bonjour.
Bonjour.
Alors Gloria, on vous écoute.
Oui, donc moi j'ai un témoignage. Je viens d'une famille où on a déjà eu 4 cas de drépanocytose. 2 filles, 2 garçons. Les filles n'ont pas survécu et les garçons sont là. L'un il a 20 ans et son petit frère a 10 ans. Mon problème est que les 2 garçons, ils ont des crises douloureuses excessives. Ils n'ont même pas pu aller à l'école. Et je me dis que peut-être c'est la prise en charge qui fait défaut. L'aîné, il a même développé une addiction à la tramadol. Parce que tout le temps qu'il a les crises, il est obligé d'injecter des tramadol. On aimerait savoir que faire pour avoir des soins appropriés et leur donner l'espérance de la vie, quoi.
Alors Gloria avance plusieurs aspects intéressants car elle rappelle notamment que malheureusement certains ne survivent pas à cette maladie, donc c'est donc une maladie très grave et certains souffrent énormément. C'est peut-être l'occasion de revenir sur les traitements. Gloria a évoqué le tramadol. Qu'est-ce que c'est, docteur Niakate?
Alors le tramadol, c'est un antalgique, c'est un antidouleur dérivé de la morphine en fait, parce que il faut s'imaginer que les personnes qui ont une drépanocytose, quand elles vous décrivent la crise douloureuse, elles vous disent que c'est la même douleur que quand on a une fracture.
Alors donc ça fait très mal.
Ça fait excessivement mal et c'est vrai que des fois à la maison avec les traitements simples qui sont donnés, le paracétamol, les anti-inflammatoires, etc., c'est pas toujours suffisant et on est obligé de passer à des paliers plus importants de traitements antalgiques. C'est le traitement de la douleur, c'est vraiment du cas par cas parce que la perception de la douleur, c'est quelque chose qui est personnel, d'accord. Et puis on est tous différents face à nos réactions par rapport à la douleur. Et donc, il y en a qui ont un seuil qui va être plus élevé que d'autres. Ensuite, pour parler d'addiction, c'est toujours un peu compliqué parce que quand quelqu'un a mal, tant que sa douleur n'est pas calmée, il faut donner les antalgiques, pardon, de façon à ce que la douleur soit atténuée.
Mais cet antalgique, est-ce qu'il y a une alternative éventuellement pour éviter cette dépendance dont souffrent les frères de...
Là, pour l'instant, ce dont on dispose, c'est comme palier dans les paliers les plus importants, c'est les morphiniques et leurs dérivés. Et c'est ça, pour l'instant, qui arrive à calmer les douleurs. Ensuite, il y a d'autres techniques qu'on appelle les techniques non médicamenteuses, par exemple la relaxation, l'auto-hypnose, etc. Mais ça vient en plus du traitement médicamenteux classique. Et c'est vrai que quand une douleur est installée depuis longtemps, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et des fois, effectivement, on est obligé de donner les morphiniques. Ça, après, c'est vraiment du cas par cas. C'est compliqué de répondre à ces questions-là.
Gloria, est-ce que vous avez consulté autour de cette addiction qui a été provoquée avec le tramadol, la prise du tramadol? Gloria, vous m'entendez? Bon, Gloria.
Oui, je vous attends. Nous avons fait des consultations, mais malheureusement, il n'y a pas de spécialité. Donc, il n'y a pas un centre où on peut traiter la drépanocytose. Il n'y a pas de médecin qui s'intéresse à la cause. Et bon, c'est frustrant parce que au niveau local, on n'a pas de moyens d'aller à l'extérieur.
C'est ça, la difficulté de la prise en charge est très difficile dans certains pays. Mais on va revenir et continuer de parler de cet accès aux médicaments en Afrique. Gloria, merci de nous avoir appelé en direct de Bukavu en République démocratique.
Priorité santé. Diarra Ndiaye.
seconde partie de Priorité Santé consacrée à la drépanocytose, une maladie génétique responsable d'anémie, de fatigue intense, d'immunodéficience et de fortes douleurs qui peuvent toucher différents organes. Elle a été reconnue par l'OMS et l'ONU comme quatrième priorité de santé publique après le cancer, le sida et le paludisme. En studio, toujours avec moi, Dr Hassan Yakaté, médecin référent pour la vaccination et la drépanocytose au sein du Bureau de la prévention et des dépistages de la drépanocytose de Paris. Elle est donc drépanocytologue en pédiatrie générale à l'hôpital Trousseau. Bonjour. Le docteur Diakité, pédiatre à l'hôpital Gabriel Touré, est lui en ligne avec nous depuis Bamako au Mali. Docteur Abdoulaziz Diakité, bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur, dans certaines régions africaines, la drépanocytose touche jusqu'à 2% des nouveau-nés. Quelle est la prévalence au Mali?
Merci à RFI pour cette invitation. Pour la prévalence de la drépanocytose, nous pouvons dire qu'elle n'est pas réellement connue, elle est estimée.
Oui.
Et au Mali, cette prévalence est estimée autour de 4 à 15% en fonction des régions. Pour les porteurs de traits, oui. Par ailleurs, il n'y a que 2% qui sont réellement malades, qui sont des drépanocytaires. Nous avons plutôt des prévalences hospitalières.
Et est-ce que les patients dont on parle là viennent facilement vous consulter?
Effectivement, il y a des patients qui arrivent facilement à nous voir, c'est-à-dire venir en consultation au niveau des unités de consultation à la pédiatrie ou au niveau du centre de recherche de lutte contre la drépanocytose qui est au projet notre centre dirigé par le professeur Dapa, notre maître. Par ailleurs, il y a beaucoup de malades qui traînent, qui souvent ont des parcours atypiques, qui commencent par la famille, les tradithérapeutes.
Ils font appel aux tradipraticiens?
Oui, les marabouts, souvent, c'est les médecins, et après, c'est les médecins qui ont des profils de prise en charge. Donc, cela alourdit le parcours du malade et c'est en train de les prendre en retard.
Donc,
les retards à la consultation, les retards au diagnostic et les retards au traitement.
Ben oui, puisque du coup, il faut dépister cette maladie pour soigner la maladie. Docteur Diakité, est-ce que justement au Mali, le dépistage est systématiquement réalisé à la naissance?
Pour le moment, nous pouvons dire que ce dépistage n'est pas réalisé systématiquement.
Et comment on dépiste alors ces drépanocytaires maliens?
Pour le dépistage, comme l'a dit notre conseiller, docteur Diakité, bonjour à elle déjà.
Bonjour, docteur.
Oui, bonjour. Donc, c'est par la prise de sang. Et ici, au Mali, nous le faisons avec l'électrophorèse de l'hémoglobine. Pour le dépistage, on peut aussi aller par les tests indirects pour vérifier déjà s'il y a une falciformation. Le test de Mel, qui peut être réalisé dans certaines structures. Mais le diagnostic final est posé par l'électrophorèse de l'hémoglobine.
Il y a le DREPA-test aussi qui est utilisé. Est-ce qu'il l'est au Mali?
Oui, on peut dire que souvent, oui, mais pas à l'échelle nationale, c'est pas partout.
Ah, parce que ça coûte cher, du coup, c'est pas forcément disponible partout dans le pays. Et au niveau du traitement, on sait que la morphine est parfois nécessaire. Est-ce qu'elle est disponible au Mali?
Effectivement, nous pouvons dire que la morphine est disponible dans les structures hospitalières. Et cette prise en charge par la morphine est souvent réglementée par rapport à la prescription. Donc, si l'indication est là, nous n'hésitons pas à prescrire la morphine. Et souvent, c'est là qui peut être un goulot d'étranglement par rapport à la morphine. Seulement, il faut des prescriptions cadrées.
Et vous rencontrez quelles difficultés alors dans la prise en charge de cette maladie, docteur Diakité?
Alors, les difficultés, elles sont nombreuses. On peut dire que les difficultés sur le plan social, c'est la méconnaissance de la pathologie par la population de façon générale. Malgré les efforts et tout ce qu'il y a comme élément entrepris dans le sens de la communication pour le changement de comportement. Mais il y a aussi des difficultés par rapport à la prise en charge sur le plan coût.
Oui, parce qu'en Afrique, l'accès aux médicaments coûte cher. Est-ce que justement, l'accès au traitement progresse au Mali? Vous sentez qu'il y a des améliorations?
Si, nous pensons qu'il y a une forte amélioration. Nous, en pratique, nous pensons quand même qu'il y a des améliorations très notables. d'abord une amélioration sur le plan de la prise en charge sur la pyramide sanitaire par la création de notre centre de recherche de l'hypothèse de la drépanocytose, qui est chapeauté par le professeur Dapa, notre maître. Il y a une dissémination de la formation du personnel de santé au niveau des régions, mais aussi la dissémination des structures de prise en charge. Et c'est là par l'acquisition des compétences par les praticiens, parce que les médecins aussi devaient être mis à jour par rapport à la prise en charge, mais aussi au niveau des centres de prise en charge initiale, notamment les CESCOM.
Oui, il y a justement le docteur Niakate qui forme des médecins au Mali autour de la drépanocytose.
Effectivement, comme pour compléter ce que dit docteur Diakité, depuis maintenant 4 ans, il y a un diplôme universitaire justement qui est porté par le professeur Dapa Diallo au centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose de Bamako, associé avec la faculté de médecine, et on a la possibilité de former une vingtaine de médecins de la sous-région à se spécialiser sur la prise en charge des patients drépanocytaires et pouvoir ensuite, quand ils retournent dans leur structure d'origine, appliquer cet enseignement. Donc là, en termes de formation, on forme des médecins, bien entendu, du Mali, mais également du Sénégal, du Niger, de la Mauritanie, de la RDC, du Cameroun, et je suis désolée pour les pays que j'ai oubliés.
Docteur Diakité, juste pour conclure, est-ce que la prévention, on sait que ça demeure la meilleure alternative pour réduire les crises, et quel type d'actions sont menées au Mali en ce sens?
Alors, la prévention est, on pourrait dire, la pierre angulaire de la prise en charge, parce qu'en réalité, mieux vaut prévenir les crises, les complications et prendre en charge de façon précoce l'enfant. Cependant, il faut d'abord bien éduquer la population. L'éducation pour la santé, qui passe par l'information, la bonne information, la sensibilisation, l'accompagnement des malades que vous faites sur RFI, l'éducation thérapeutique. Mais aussi, il faut passer sur d'autres pans de la prise en charge, notamment la prise en charge au niveau thérapeutique par rapport à l'administration des médicaments qui doivent être disponibles. Et la vaccination ne doit pas être oubliée, elle est une composante essentielle voire majeure dans notre contexte, parce que en plus des vaccins du PEV, du programme élargi de vaccination, nous devons faire des vaccinations spécifiques. Contre les infections qui peuvent arriver chez les drépanocytaires.
On espère que le message a été entendu par nos nombreux auditeurs. Docteur Abdoul Aziz Diakité, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes pédiatre à l'hôpital Gabriel Touré à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Les questions sont nombreuses autour de la prise en charge de la drépanocytose, de la douleur, du traitement de la douleur. Et de nombreuses questions nous arrivent. On va prendre en ligne de Lumumbashi en République démocratique du Congo, Kevin. Kevin, bonjour.
Bonjour Biara, bonjour à tous.
Kevin, on vous écoute.
Alors, moi j'ai des grands soucis pour comprendre ceci. Mon oncle est zygote, ma tante aussi. Ils ont eu 5 enfants. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est le cadet qui est atteint de la maladie en question.
Alors, Kevin, aussi, allez-y, on vous écoute.
Et aussi, je voulais savoir pourquoi cette maladie se manifeste après 3 semaines de naissance.
Alors, docteur Niakate, c'est intéressant. On revient encore sur la question de la transmission de la drépanocytose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec les enfants de l'oncle de la tante de Kevin, qui sont drépanocytaires pour certains et non pour d'autres?
Alors, effectivement, comme je le disais en début d'émission, c'est compliqué de comprendre la notion de transmission comme ça. Donc, comme vous l'expliquez très bien, votre oncle et votre tante sont tous les deux porteurs sains. Ils sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont chacun un gène A, un gène S, d'accord? Ensuite, à chaque grossesse, ça va être un petit peu les jeux du hasard. C'est-à-dire que un parent ne peut transmettre que la moitié de son héritage pour que l'enfant ait un héritage complet. Donc, si par exemple, vos deux, votre oncle et votre tante transmettent tous les deux en même temps leur gène A. À ce moment-là, l'enfant va être AA, il n'est pas malade. Si par contre votre oncle, par exemple, transmet son gène S et que votre tante transmet le gène A, ça va être un bébé AS, porteur sain mais pas malade. Ça peut être le contraire aussi, l'oncle va transmettre le gène A et la tante le gène S, l'enfant est à nouveau AS, il n'est pas malade. Par contre, quand dans la loterie, tous les deux vont transmettre en même temps leur gène S, à ce moment-là, cet enfant va être SS et cet enfant-là sera malade. En termes de probabilité, on a à peu près, on a 25% de risque d'avoir un enfant malade quand les deux parents sont porteurs sains.
Kevin, est-ce que vous avez d'autres questions? Il y avait une autre question, effectivement, c'est pourquoi cette maladie s'est manifestée après 3 semaines de l'arrivée du bébé.
Donc du coup, juste pour revenir sur la transmission, c'est un peu comme les familles où vous avez des enfants qui ont les yeux bleus et des enfants qui ont les yeux marrons. Ils ont le même père, la même mère, mais ils n'ont pas hérité des mêmes gènes en même temps. C'est un petit peu comme ça qu'il faut penser les choses, d'accord? Ensuite, pour ce qui est de la manifestation de la maladie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début, à la naissance, le bébé, il est protégé parce qu'il fabrique surtout de l'hémoglobine fœtale. Donc, dans les premiers mois, les premières semaines de vie, en fait, il n'y a pas encore suffisamment d'hémoglobine S pour qu'elle s'exprime, pour que l'enfant soit symptomatique, d'accord? Donc, c'est quand l'hémoglobine fœtale va s'éteindre pour être remplacée par l'hémoglobine S, c'est à partir de ce moment-là que les premiers symptômes vont pouvoir apparaître. Et c'est ce qui explique que, ben, à la naissance, en général, quand on fait l'annonce de la maladie à des parents, ils ont un bébé bien portant dans les bras. Ils ont un bébé de 1, 2, 3, 4 mois. Ben, à ce moment-là, il est encore bien portant parce que le S a pas encore eu le temps de pouvoir s'exprimer.
Kevin, est-ce que la question de la transmission est un peu plus claire avec les explications que le docteur nous a fournies?
Oui, c'est très bien. Je suis très content des réponses du docteur.
Merci beaucoup, Kevin, d'avoir appelé. Alors, docteur Niakate, c'est aussi l'occasion pour nous de revenir sur un autre aspect de la maladie, outre la transmission qui a été évoquée avec les auditeurs. C'est peut-être les règles d'hygiène de vie, comme l'hydratation, faire attention aux changements de température dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a quoi d'autre comme recommandations qui peuvent être appliquées aux drépanocytaires?
Comme le disait tout à l'heure le docteur Diakité, vraiment c'est important d'insister sur tout ce qui va être éducation à la santé, éducation thérapeutique, parce que finalement, ben, si on arrive à mettre en place des petites choses au quotidien, eh ben, on arrive quand même à limiter la survenue de certaines crises douloureuses. Donc effectivement, l'hydratation, c'est très important. Par exemple, nous en France, quand on sait qu'un enfant est atteint d'un syndrome drépanocytaire et qu'il doit rentrer à l'école, on met en place ce qu'on appelle un projet d'accueil individualisé, le PAI. Et ça permet que pendant les cours, cet enfant, il a le droit de boire. Donc il a sa bouteille d'eau sur la table. Du coup, quand on boit beaucoup, on a envie de faire pipi beaucoup. Donc il a l'autorisation de se lever plus souvent que les autres pour aller aux toilettes, même pendant le cours. Pendant les périodes de grand froid, on sait que s'il fait trop froid dehors, cet enfant-là, il va être bien couvert, mais on va aussi peut-être le garder plus sous le préau que les autres enfants. Voilà, c'est des petits aménagements du quotidien qui permettent en fait de limiter, en tout cas dans une certaine mesure, la survenue de crises douloureuses.
Et pour nos auditeurs qui sont en Afrique, qui nous écoutent, peut-être s'hydrater du coup, puisque
l'hydratation, c'est très très important. Moi, ce que je dis souvent aux parents, je leur dis: quand votre enfant, par exemple, est déjà douloureux, le premier médicament, c'est pas le paracétamol, c'est pas le doliprane, c'est l'eau. L'eau, ça fait partie du traitement de la drépanocytose.
Donc buvez. Nous allons prendre en ligne une auditrice, Aïssa, qui nous appelle de Mundu au Tchad. Aïssa, bonjour.
Bonjour.
Aïssa, vous avez une question pour nous, on vous écoute.
Oui, moi je suis AS et maintenant je voulais savoir le don de sang. Et j'aimerais savoir quels sont les risques pour moi et pour les récepteurs.
Ah bah, docteur Niakate, est-ce qu'il est possible pour un drépanocytaire de donner son sang?
Alors en fait, madame Aïssa, vous n'êtes pas drépanocytaire, vous êtes porteuse. Donc en tant que porteuse, enfin hétérozygote AS, bien entendu, il est tout à fait possible de donner votre sang. Ensuite, la petite particularité, c'est qu'il arrive des fois, certaines personnes AS vont boucher les filtres. D'accord? Et donc, on sait qu'une personne donnée, quand elle bouche les filtres une fois, à chaque fois, elle va boucher les filtres. Donc, ces personnes-là, du coup, on va les exclure du don de sang, de globules rouges. Par contre, vous pouvez continuer à donner des plaquettes ou d'autres choses. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que, du coup, c'est important cette question parce que ça permet de sensibiliser au don du sang, notamment en Europe, puisqu'on a beaucoup de donneurs qui sont plutôt d'origine européenne et que nous, les patients, sont plutôt d'origine afro-caribéenne. Et c'est vrai qu'il y a quand même des petites différences au niveau des anticorps et ça permet du coup de faire un appel pour que dans la communauté, il y ait un peu plus de donneurs parce que effectivement, il peut y avoir des fois des petites complications ou de la formation d'anticorps parce que le sang n'est pas exactement compatible.
Donc Aïssa, allez donner votre sang. Du coup.
Donc
c'est ça le message.
Donner votre sang.
Merci beaucoup Aïssa. On va prendre un autre auditeur en ligne, Bassa qui nous appelle de Lomé au Togo.
Oui, bonjour.
Bonjour Bassa.
Oui, en fait, j'ai ma femme qui est drépanocytaire AC. Et donc, du coup, je crois que mes deux enfants le sont aussi. Parce que parfois, ils font des crises d'anémie et puis je comprends rien. Donc, je voudrais savoir quelles sont les précautions à prendre pour ne plus avoir de crise.
Ah, docteur Niakete.
Alors, comme vous le dites, votre femme est AC, donc elle n'est pas malade, elle est porteuse, d'accord? Donc, le fait d'être porteur, normalement, on n'est pas symptomatique. Quand on est AC, on ne doit pas faire de crise douloureuse. Donc, il faut éventuellement chercher s'il n'y a pas une autre maladie, rhumatismale ou de l'arthrose ou des choses comme ça. Pour ce qui est de vos enfants, l'anémie, ça peut être favorisé par le paludisme, par exemple, ou par d'autres choses, ou par le manque de fer, parce que les enfants, souvent, sont carencés. Donc, il faut pas non plus tout relier à la drépanocytose. Effectivement, on est dans le contexte africain, on est dans des populations où on peut avoir jusqu'à 10, 15, 20% de la population qui est porteuse saine, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Et donc, je pense qu'il faut essayer de chercher d'autres étiologies aux symptômes de votre femme et de vos enfants. Mais le fait d'être AC, on n'est pas symptomatique. On a juste des globules rouges un peu petits. Mais c'est tout. Ça ne s'exprime pas.
Bah, ça, est-ce
que... Bon, là, ce que je comprends pas, c'est que, actuellement, nous sommes en période d'Armata, à Lomé.
On vous entend pas très bien. Je me permets juste de vous couper parce qu'on va vous rappeler. La ligne n'est pas très claire. On vous contactera de nouveau. En attendant, on va partir dans un tout autre registre parce qu'il y a une bonne nouvelle au Gabon. Le dernier cas de poliomyélite, il a été notifié dans le pays depuis 2011. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Bourema Sambou, représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Bourema Sambou, bonjour.
Bonjour Madame Djeranjay.
Alors vous êtes donc représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon. Alors pour faire une petite transition, vous avez développé justement la stratégie de lutte contre la drépanocytose. Qu'est-ce que l'OMS a fait pour lutter contre cette maladie?
Merci Madame Ndiaye pour cette opportunité. Oui, l'OMS a développé une stratégie régionale de lutte contre la drépanocytose qui a été présentée au comité régional, c'est-à-dire à tous les ministres africains qui l'ont adoptée en 2010. Et essentiellement, c'est pour donner des lignes directrices et des interventions prioritaires pour aider à la lutte contre la drépanocytose. J'aimerais aussi dire, j'ai bien écouté vos deux invités, Dr Assa Diakité et Abdulaziz Diakité. Je voulais juste faire une mention pour le fardeau socio-économique de la drépanocytose, qui est extrêmement coûteux en termes de prise en charge, et je pense que ça n'a pas été assez dit. Juste pour dire que donc l'OMS a suggéré à nos États membres un certain nombre d'intervention autour des approches de soins de santé primaire et de promotion de la santé pour garantir une bonne mise en œuvre des politiques et d'application de législation qui permettent une excellente prise en charge de la drépanocytose dans la région africaine de l'OMS.
Et il y a d'autres actions qui sont justement mises en place pour empêcher d'autres maladies, à l'instar de la poliomyélite qui, au Gabon, en tout cas, il n'y a pas eu de nouveaux cas depuis 2011. Quelles actions ont été mises en place pour, en tout cas, ne pas avoir de cas depuis quelques années maintenant ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Le dernier cas de polio enregistré au Gabon date de 2011. Et c'est pour cela que donc le Gabon, après avoir mis un certain nombre de mesures, surtout une surveillance de paralysie flasque aiguë, qui est un indicateur clé de la surveillance de la polio, donc après avoir mis une surveillance active de paralysie flasque aiguë de haute qualité et sensible, après avoir mis en œuvre des activités de confinement de tous les poliovirus sauvages, et surtout la capacité du pays de répondre à une nouvelle importation du virus de la polio. Et le point le plus important, une excellente couverture vaccinale qui s'est beaucoup améliorée et la mise en place d'un comité national de certification de la polio qui est fonctionnel et opérationnel. Et tout ceci a fait que le Gabon a été éligible de préparer une documentation complète qu'il faut que le Gabon a présenté devant la commission régionale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite en Afrique, et ceci qui s'est tenu à Yaoundé au Cameroun du 11 au 15 décembre passé.
D'accord, il est important de rappeler que le vaccin permet d'éviter la maladie. Vous avez parlé de surveillance, de confinement, mais justement, où en sont les campagnes de vaccination actuellement au Gabon ?
Oui, il faut dire que quand deux pays voisins du Gabon ont connu des épidémies, entre 2014 et 2017, le Gabon a conduit 7 campagnes préventives. Nous insistons sur le mot préventif puisque le Gabon n'a aucun cas. Mais comme le poliovirus sauvage circule dans des pays voisins de la région africaine, dans certains pays de la région africaine, des campagnes préventives ont été organisées pour augmenter l'immunité des enfants gabonais, ce qui a permis donc avec toute la surveillance que le pays a mis en place, y compris la surveillance environnementale. Il faut rappeler que le Gabon a introduit la surveillance environnementale, c'est-à-dire prélever des eaux usées dans les égouts pour voir est-ce qu'il y a effectivement le poliovirus sauvage. Ça témoigne d'une surveillance active et ceci a permis de prouver une fois de plus qu'il n'y avait pas de traces de polio dans le pays.
Et docteur Sambo, est-ce que l'accès au vaccin est facile et surtout est-ce qu'il est gratuit pour la population ?
L'accès du vaccin, le vaccin est gratuit au Gabon, complètement gratuit. C'est un vaccin donc du PEV, c'est-à-dire du programme élargi de vaccination, qui a un certain nombre de vaccins. Comme vous le savez, c'est entre autres le BCG, le VPO, le vaccin anti-rougeole, le vaccin anti-amarile, le VAT. Le pays est même en train d'introduire ce qu'on appelle le VPI, c'est-à-dire le vaccin polio-injectable, est en train de travailler pour introduire de nouveaux vaccins, mais tous les vaccins du programme élargi de vaccination sont absolument gratuits.
Et la poliomyélite, c'est une maladie très contagieuse. Quelle stratégie, envisagez-vous pour ne plus avoir de nouveaux cas ?
C'est essentiellement ce que je veux vous dire. Vous savez que ça passe par deux facteurs essentiels. C'est augmenter la couverture vaccinale, qui doit être optimale. Deux, c'est assurer une surveillance active. Qu'est-ce qu'on appelle une surveillance active ? C'est être en mesure de détecter un cas et de le prendre en charge immédiatement. Donc, maintenant, pour la couverture vaccinale, c'est ce que le pays est en train de faire, c'est donc d'augmenter ce qu'on appelle le PEV de routine. C'est-à-dire pas le PEV comme fait seulement des campagnes, mais que le vaccin soit disponible à tout moment et à tous les centres de vaccination.
Donc, vous allez poursuivre les campagnes ? Vous allez poursuivre les campagnes de vaccination ?
Non, on va mettre l'accent plutôt sur les campagnes, ce qu'on appelle le PEV de routine. La vaccination de routine, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune opportunité de manquer un enfant qui se présentera à une formation sanitaire. À partir du moment où la couverture sanitaire est bonne et excellente, on n'a plus besoin de campagne. Les campagnes sont organisées pour parler au plus pressé, c'est-à-dire, comme je disais, comme le Gabon l'a fait, des campagnes préventives, ou quand il y a des cas de polio. Mais à partir du moment où la couverture vaccinale est bonne et excellente, on n'a plus besoin de faire des campagnes de masse. On maintient maintenant ce qu'on appelle la vaccination de routine, qu'on intensifie et qu'on fasse en sorte que l'enfant, partout qu'il ait son vaccin.
Donc, un dernier message à lancer, d'après vous, docteur Bourema Sambou, pour que la population soit en alerte autour de cette maladie contagieuse?
Un message essentiel et fondamental, nous sommes en fête de fin d'année, aujourd'hui c'est Noël pour les chrétiens, nous allons vers la nouvelle année, nous pensons toujours à ceux que nous aimons beaucoup. Nous aimons nos enfants, je dirais seulement vaccinons nos enfants et ne les condamnons pas.
Merci beaucoup docteur. Oui, merci à vous docteur Bourema Sambou. Je rappelle que vous êtes représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé au Gabon. Priorité touche à sa fin. Merci à vous, docteur Hassan Yakaté, d'avoir été présent avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin référent pour la vaccination et la drépanocytose au sein du Bureau de la prévention et des dépistages de la drépanocytose de Paris. Vous êtes également drépanocytologue en pédiatrie générale à l'hôpital Trousseau.
Merci.
Et demain, dans Priorité Santé, nous parlerons des peaux noires. Que faire en cas d'acné? Comment bien s'hydrater? Quels sont les risques de la dépigmentation? Si vous voulez témoigner ou poser une question, n'hésitez surtout pas. Le numéro de téléphone de l'émission, 33 1 84 22 75 75.
Avec Suno Assurance, notre métier, l'assurance.